Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Génial. Eh ben on va passer sur l'épisode. L'intro elle est rapide, hein, j'adore ça. T'es prête?
Ouais.
Spots, le podcast. Ah bah attends, laisse-moi. Ne commence pas à me couper la parole, s'il te plaît. Ça c'est mon rôle.
J'ai rien dit.
Spots, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode. Tu as fait épisode 197, ici Richard Delhomme. J'adore ce genre d'épisode car je n'ai même pas besoin d'écrire une introduction à part aujourd'hui, je reçois Nathalie Bayon. Juste avant de mettre l'épisode en ligne, je me permets ce petit appendice. Comme vous allez l'entendre, la connexion avec Nathalie était très mauvaise et a engendré un léger décalage entre nos voix. Mais bien plus embêtant, la fin de l'épisode est perdue et notamment la minute de solitude de Nathalie, donc bien entendu, je suis absolument navré pour ce désagrément. Bonjour Nathalie, ça fait longtemps?
Bonjour, ouais. Je me demandais si tu avais continué tes podcasts.
Oh bah t'es toute...
Comment?
Pourquoi?
Non, j'ai pas trop suivi.
On a un petit décalage, c'est terrible. La connexion n'est... Oh bah j'ai... Non, je me suis pas arrêté. Hein. Bon, on a un petit décalage, donc je vais faire doucement. Nathalie, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me résumer, disons, les 6 derniers mois de ta vie?
Oula.
Tranquille.
J'ai fait beaucoup de vélo. ouais, ça a commencé par... voilà, mon premier gros objectif de l'année, c'était... Ah non, il y a même eu avant ça, il y a eu... Enfin, mes deux gros objectifs de l'année, du coup, c'était à la fois battre le record de traversée d'Europe, nord-sud, ou sud-nord, on peut le faire dans le sens qu'on veut, et la Silk Road Mountain Race. Donc ma première course VTT... Enfin non, du coup, c'est... J'ai fait un entraînement avant, donc c'est finalement ça a été la deuxième. Mais voilà, j'ai commencé le VTT vraiment parce que je voulais faire cette course. Et puis, je voulais faire des défis un peu plus perso, de la plus longue distance. Et donc, c'était ce qui m'avait attiré. Enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à la longue distance, il n'y avait pas énormément de courses. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des records, des Guinness records de traversée de continent, des choses comme ça. Et donc, c'était mon premier objectif, ça avait été ça. Après, je l'avais un peu oublié, il y a eu le Covid, etc. C'était plus vraiment possible. Et donc là, c'est à nouveau possible. Je me dis, ben, pourquoi pas faire ce truc-là que j'avais imaginé au tout début de ma carrière ultra-cycliste. Et donc, l'année a commencé avec un voyage en Grèce parce que je voulais faire la Silk Road Mountain Race et Nelson Tree avait, avait créé une course. Une nouvelle course en Grèce, la Hellenic Mountain Race. Et donc, l'idée, c'était de suivre ce parcours. À la base, je voulais faire l'Atlas Mountain Race en reconnaissance, mais mon passeport arrive à expiration. Enfin bref, on s'en fout. Donc, je suis partie sur cette Hellenic Mountain Race. Mais voilà, parce que c'était censé être la plus facile, finalement, à la base. Enfin, c'était... c'était un peu... il disait que c'était la course la plus facile des celles de Nelson Tree, mais on sait qu'il y a quand même toujours du portage, des choses un peu bizarres sur ces courses. Et donc je me dis ça fera quand même un bon entraînement. Donc je pars là-bas en mars et j'atterris à je sais plus. Enfin bref, j'arrive là-bas, il fait super chaud.
Athènes.
Oui, Athènes, la capitale. Bref. Et du coup, ouais, je me dis, je vais aller au départ à vélo. Et là, il fait super chaud, etc. Je me dis, ouais, j'ai amené des vêtements finalement assez frais. Je vais pas en avoir besoin. Est-ce que je les garde? Et finalement, j'ai bien fait. Après, dans la montagne, il a fait super froid, il y avait de la neige. Enfin voilà, je m'attendais pas à une météo comme ça. Et donc, ça a été assez difficile. Et puis, bon, comme j'étais quand même assez limitée dans le temps, j'ai pas pu suivre toute la trace. Mais voilà, ça m'a fait un très bon entraînement. J'en ai bavé. Mais c'était en même temps très beau, très sympa. C'était vraiment cool. Et puis, je passais dans des petits villages. Avec des personnes, je pense, qui n'avaient pas l'habitude de voir des cyclistes, et c'était sympa parce qu'ils voulaient tous venir me parler un peu, ils étaient curieux, mais en même temps, ben, je parle pas vraiment le grec, donc c'était compliqué. On parlait plus un peu avec les mains. Donc voilà, ça c'était mon premier, c'était plus de l'entraînement, premier voyage de l'année. Ensuite, j'ai enchaîné sur la traversée nord-sud. Il n'y avait pas encore de record féminin. Donc l'idée, c'était à la base d'essayer de battre le record global, record qui est détenu par Ian Walker en 16 jours, 20 heures et 59 minutes. Lui, il l'avait fait dans le sens nord-sud. Alors moi, j'avais pensé le faire plutôt dans le sens sud-nord pour différentes raisons. Ça s'est avéré pas très payant. J'ai eu plein de vents de face. Et puis voilà, après j'avais pas l'expérience sur aussi long, donc c'était plus aussi pour me mettre un objectif et me booster que j'avais décidé d'essayer de battre ce record, parce que le record féminin, je savais que j'allais terminer, et donc l'idée, enfin, juste établir un record féminin, c'était pas assez boostant pour moi. Mais du coup, bah, j'ai pas réussi le premier objectif de battre le record global, et j'ai quand même établi le record féminin en 18 jours, 16 heures et quelques. Mais voilà, c'était quand même une belle expérience. Je pense que j'ai pas mal appris. Ouais, j'ai une équipe média qui m'a suivi, enfin, qui a fait un film qui va sortir sans doute bientôt. Ça s'appelle La Route de l'Audace. Donc mon premier film sur mes aventures. J'espère que ça sera bien et que ça plaira. Et après ça, j'ai enchaîné pas mal d'événements. Mais là, c'était plus un peu de l'entraînement, où voilà, j'avais par exemple, il y avait le Tour des Stations qui m'avait contacté parce qu'ils faisaient leur première ultra. Ils m'avaient proposé de participer à la course, mais bon, pour moi, c'était trop proche de la Silk Road, donc j'aurais dit je peux faire la reco. Et voilà, l'idée, c'était de faire un peu la promotion aussi de l'événement. Donc j'aurais dit je peux faire la reco avant, donc j'ai fait ça. Ensuite, j'avais l'Ultra Arverne, je suis marraine de l'événement, donc j'ai enchaîné là-dessus juste après. Ensuite, j'ai été invitée à la Haute Route dans les Pyrénées. Je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas été dans les Pyrénées, que je vais y retourner. Donc, j'ai enchaîné là-dessus. Après, j'avais une course VTT en Italie de prévue, la Memory Bike Adventure, qui était un entraînement du coup pour la Silk Road. Bon, je suis arrivée là, j'étais un peu cramée. Mon vélo était aussi en sale état. Il était censé être révisé, mais il y a eu des problèmes. Enfin bref. Donc j'étais en sale état, mon vélo était en sale état, mais la course était top. Ça m'a quand même aussi appris pas mal de choses. Et puis il y avait un très très gros niveau féminin, donc c'est un peu dommage que j'étais pas en forme pour faire la compétition. Mais voilà, c'était cool. Et ensuite j'ai finalement pris un peu de repos pour être prête et pour faire mon deuxième objectif, donc la Silk Road Mountain Race, où là j'avais beaucoup d'appréhension et d'attente, et finalement ça s'est super bien passé. Enfin, il y a eu aussi, bah, comme toujours, quelques problèmes. Bon, j'ai quelques problèmes mécaniques et quelques erreurs. Pareil, c'était ma première course aussi longue en VTT, et dans des, enfin ouais, dans des un parcours aussi isolé, avec voilà, toutes les contraintes que ça amène en plus. Parce que moi, j'avais fait beaucoup de courses plutôt sur route, où tu peux facilement trouver à manger. Donc là, il y avait toute cette partie aussi logistique que je connaissais moins, où j'avais beaucoup moins d'expérience. Pareil pour tout ce qui est gestion du sommeil, où je savais pas trop combien je pouvais dormir. Et donc j'ai plutôt été du côté ouais, préservation, où j'ai essayé de dormir plus. Mais globalement, enfin, j'ai quand même terminé première femme, bon, ex aequo. On a terminé ensemble avec une autre fille, qui ça a été une belle bataille tout le long. Et donc, ouais, je suis plutôt contente quand même de ma course. Et voilà. Et là maintenant, j'ai fait une petite coupure, et là j'ai plus vraiment d'objectifs cette année. Donc je me repose, et je commence à réfléchir à l'année prochaine. J'ai plein plein d'idées, mais après, à voir ce qui pourra rentrer dans le calendrier et ce que je pourrais vraiment mettre en place. Donc 6 mois très denses.
Est-ce que tu vas revenir sur le VTT? Qu'est-ce qui ça, est-ce que ça t'a vraiment changé? Est-ce que la préparation en Grèce a été suffisante? Est-ce que tes problèmes mécaniques sont des aléas comme on en rencontre toujours sur ces courses ou dû à ton manque d'expérience? Comment tu as vécu justement cette première expérience VTT? En tout cas off-road engagée, on va dire.
Ouais. Ça m'a bien plu. Après, oui, il faut préciser que c'était pas technique. Donc mon entraînement était quand même très similaire, à part que j'étais un peu plus sur le VTT. Voilà, j'ai quand même un petit peu progressé techniquement, mais c'est pas engagé, enfin dans le sens ouais, dans le sens technique. Donc ça c'est plutôt, je pense que c'est pour ça que ça s'est plutôt bien passé. Si ça avait été trop technique, pas sûr que j'aurais été dans les premiers. Et non, les problèmes
Bon,
mécaniques,
t'es pas mauvaise quand même techniquement, hein.
bah le gravel m'a quand même un
T'es
peu
pas
aidé,
mauvaise quand même
mais
techniquement.
ouais, enfin sur du
Et en plus, tu
VTT, je
descends
suis,
très vite.
alors je descends très vite sur route.
Descente de col, tu descends très vite quand même, hein.
Je descends très vite sur
Ouais.
route. En off-road, c'est pas la même chose. Je suis moins à l'aise quand même. Voilà. Et
Ok.
donc non, off-road, j'ai quand même encore un peu de travail technique, je pense. Après, oui, je me débrouille, mais par rapport à quelqu'un qui aura fait du VTT depuis longtemps ou qui aura fait une école de VTT et tout, je suis quand même pas du tout à ce niveau-là. Et ouais, les problèmes mécaniques, non, c'est à la fois pas de chance et ouais, c'est un petit peu, il y a eu peut-être le vélo a pas été très bien révisé, enfin en tout cas pour l'Italie, il y a eu un micmac. Alors je sais pas, mon sponsor a priori avait quelques problèmes et il a pas eu le temps de s'en occuper. Enfin, du coup, il avait donné à quelqu'un d'autre pour s'en occuper, qui a priori n'a rien fait, parce que quand j'ai récupéré le vélo, il était toujours dans le même état. Avant la Silk Road, ça a été réparé, mais il y a eu un problème, je sais pas, avec le. Peut-être c'est moi. Non, même pas, parce que je sais pas. Il y avait des. Par exemple, le tubeless qui fonctionnait pas. Enfin, j'allais dire peut-être qu'il aurait fallu que je remette du liquide, mais au final, il y a un pneu que j'ai remis en tubeless juste avant la course. Parce que j'avais déjà le problème avant la course. Et finalement, ça n'a pas tenu non plus. Donc, voilà. Enfin, que j'ai remis, pas vraiment moi, parce que sinon, j'aurais pas confiance en dans mes capacités à ce niveau-là. Non, il y a quelqu'un qui m'a aidé à le remettre en tubeless. Finalement, ça n'a pas tenu non plus. Donc, est-ce que, enfin, quoi c'était dû, je sais pas. J'ai dû remettre des chambres à air finalement pendant la course parce que j'arrêtais pas de perdre la pression et j'arrêtais pas de devoir regonfler et je suis tombée aussi parce qu'il y avait plus de pression dans les pneus. Enfin, donc une fois que j'ai mis finalement les chambres à air, j'ai eu qu'une seule crevaison et ça s'est bien passé. Je sais que toi t'es pro au tubeless et bon en off-road moi normalement aussi, c'est pour ça que j'avais essayé de le réparer avant, mais ouais, du coup il y a eu ça, je sais pas trop. Bon, c'est peut-être là, c'était pas assez. Pas assez bien, comment on dit, pas isolé, waterproof là, enfin
Étanche.
étanche,
L'isolation,
voilà.
c'est le toit. C'est le... Ouais,
Je perds
waterproof,
mes mots
exactement. Ouais,
aujourd'hui.
il fallait mettre un morceau de ta veste Gore-Tex.
Voilà.
T'as dormi cette nuit ou t'as passé la nuit dans une discothèque?
Non, ça fait longtemps que je
Je
suis plus en
te
discothèque.
sens.
C'était pas de chance et puis après le problème c'est qu'en fait ma chaîne n'arrêtait pas de sauter entre le galet de dérailleur et le dérailleur et du coup à un moment je pense j'ai continué à pédaler et la chaîne a dû se bloquer et ça a tout tordu et voilà, le vélo était capoute. Et ça c'était 70 km avant la fin et la fin c'était quasiment que du portage, en tout cas la montée, donc là, ça m'a pas trop trop gêné, on va dire. J'ai quand même pu terminer.
Peut-être une petite patte de dérailleur légèrement tordue sur une chute.
Ouais, au début ça devait être légèrement tordu et puis à la fin j'ai réussi à le tordre complètement.
Ouais, un peu comme toi finalement, t'étais un peu fêlé au début et maintenant t'as complètement vrillé.
C'est ça.
Et si on revient un petit peu, si on revient un petit peu à ton record, à travers l'Europe, ta traversée, qu'est-ce qui a été le plus difficile par rapport à ce que tu as fait, précédemment? À part, peut-être ce, entre guillemets, mauvais choix, de direction, nord-sud, sud-nord au lieu de nord-sud, ou inversement, et ce gros vent de face, qu'est-ce que tu as pu expérimenter de vraiment différent par rapport à ce que tu connaissais?
Mais il y a deux choses en fait vraiment
La
différentes.
monotonie, peut-être?
Non, ça t'en as quand même sur les... Là par exemple sur la Silk Road, ça a été dur aussi parce que je m'attendais à ce que ça soit tout le temps waouh, incroyable et tout. Il y a 2 jours ou surtout une journée où finalement 200 km dans la vallée où t'as pas vraiment, enfin t'as des paysages mais par rapport au reste c'est pas fou et ouais et puis c'est une longue ligne droite avec en plus du tape-cul et tout, enfin voilà, une route qui détruit un peu et donc t'en as toujours et ou pareil quand tu roules de nuit pendant 7 heures, donc ça je pense t'en as toujours même sur la plupart des courses, t'as toujours un moment où tu t'ennuies un peu. Non, ce qui a vraiment changé c'était bah déjà la préparation. Il fallait bon là j'ai pas été très bonne. Il fallait faire le tracé, il fallait voilà, réfléchir à tout ça, à quel sens faire la course. Après, le record, tu peux aussi le faire en total, enfin, tu peux le faire en totale autonomie ou tu peux le faire avec assistance. Et c'est le même record, il n'y a pas de distinction. Donc après, pour moi, l'idée c'était plutôt de le faire en autonomie parce que voilà, c'est ce que j'aime. Mais si tu veux le faire avec assistance, bah il y a aussi toute la recherche des personnes qui vont te suivre pendant ces 2 semaines, ou quasiment un mois. Donc trouver ton équipe, la préparer, voilà, il y avait toutes ces choses-là. Il y en a, enfin, j'avais discuté un peu avec Ian Walker, du coup, qui détient le record. Et lui, il avait fait tout un tas de recherches avec où est-ce qu'il allait dormir. Et il avait quasiment tout planifié. Alors que moi, c'était un peu, bon, bah, je verrai où j'atterris ce soir et puis chercherai un endroit où dormir à ce moment-là, quoi. Donc moi, la planification, c'est pas trop mon fort, mais voilà, là, il fallait quand même en faire un minimum. Donc j'avais vraiment recherché les routes qu'avait fait Yann, le précédent recordman. J'avais fait un peu un mix des deux routes, mais là c'est pareil par rapport à Yann. Moi j'ai fait un travail de peintre. Yann il avait vraiment fait ses recherches, il avait regardé, enfin voilà, il m'a dit, je sais plus, je crois qu'il a mis 200 heures à faire à tracer son parcours. Alors que moi j'ai plus ou moins repris les tracés des personnes précédentes et puis j'ai fait un petit mix et voilà quoi. Et après la deuxième chose c'était le sommeil parce que bah, comme tu le sais sans doute moi j'ai fait surtout des courses route de 1000-1200 km où je dors quasiment pas et donc là je me suis dit bah, sur 2 semaines pas dormir ça va pas être possible et donc là c'était toujours combien je peux dormir pour pas trop perdre de temps mais en même temps être efficace sur la route donc là, ça c'était un peu l'inconnu et j'ai fait quelques erreurs aussi mais globalement, je pense que maintenant j'ai une meilleure idée de ce que je peux faire.
Donc ça signifie que, en ayant une préparation, disons approximative, et une gestion d'effort un petit peu à l'inconnu par rapport à ce que tu connaissais d'abord, tu as abaissé assez facilement le record féminin. Mais qu'est-ce qu'il t'a manqué pour vraiment, battre le record, global? Parce qu'il est accessible d'une
Ouais, je
manière
pense.
générale.
Ouais, je pense qu'il est
Battre
accessible.
le record féminin n'était pas un problème pour toi. Mais qu'est-ce qu'il te faudrait maintenant? Bah, tu l'as un petit peu déjà dit. Qu'est-ce qu'il te faudrait maintenant pour ramener le record global?
Bah, il me manquait l'expérience en fait sur une course aussi longue, sur et la préparation en amont. Donc oui, si j'avais mieux fait mes recherches, j'aurais vu que le vent vient plus du nord. En fait, la trace, elle va un peu vers l'est au début. Et moi, j'avais vu qu'il y avait des vents dominants d'ouest. Alors, est-ce que je me suis complètement plantée ou quoi? Mais quand j'ai fait mes recherches, j'avais l'impression que les vents dominants venaient d'ouest. Et donc, je me suis dit, ben, je vais être poussée sur toute cette partie qui va vers l'est. Et après, je me prends du vent de face sur la dernière partie. Mais bon, ça, peut-être que ça ira. Et finalement, j'ai eu du vent de face quasiment tout le long. donc peut-être que le vent vient quand même plus du nord. Et oui, en fait, le vent de face, ça a été très très déterminant parce que déjà, bah, tu perds beaucoup de temps. Déjà physiquement, ouais, je l'ai vu par exemple. J'ai eu vent de dos dans la première partie de la Russie quand j'allais vers Saint-Pétersbourg. Et là, ma moyenne, mais c'était complètement différent. Hein, ça change complètement. Déjà, donc tu te fatigues moins. Mais en plus, mentalement aussi, c'est quand t'appuies et que t'es à 20, à peine 25, enfin que tu galères, que t'as des moyennes en dessous de 25 sur du quasi plat alors que t'as l'habitude d'aller beaucoup plus vite, ben c'est ouais c'est c'est dur quoi, t'as pas envie de continuer. Donc ouais voilà, non je pense après voilà Yann l'a aussi fait en totale autonomie, voilà ça a souligné. Enfin lui il l'a fait en totale autonomie. Moi j'avais des fois les vidéastes qui m'aidaient quand même un petit peu. Vu qu'ils étaient là et que j'étais pas interdit, de temps en temps ils m'ont donné un coup de main quand même. Mais du coup, ouais c'est ça. Je pense c'est bah déjà il y a un peu de chance selon tes conditions météo, il y a un peu de planification et j'ai pas suivi exactement la même route que lui et je pense que si je devais le refaire, déjà je le ferais dans l'autre sens, je ferais exactement la même route que lui. Parce que je pense qu'il a vraiment bien bien travaillé sa trace, plus que tous ceux qui l'ont fait avant. Et puis après, ouais voilà, c'est mieux se connaître, donc savoir, bah là je peux dormir, par exemple, moi je pense que je peux dormir 3 heures, 3-4 heures, et être efficace, quitte à refaire une petite sieste ou deux dans la journée. Donc voilà, c'est un peu tout ça, et puis optimiser, mais là je pense, à part sur la fin où je savais que je pourrais plus faire le record, je pense que j'ai pas trop perdu de temps. Enfin, j'ai perdu du temps, par exemple, à la frontière russe, mais ça, c'est les aléas, voilà, la sortie de la Russie, parce que j'ai été interrogée, etc. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Lui, il a sûrement perdu du temps sur d'autres choses. Il a peut-être eu un problème mécanique. Il a peut-être eu, voilà, ça arrive aussi, quoi. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Il y a toujours une petite part de chance. Enfin, je pense que si je le, en fait, ça m'intéresse pas forcément de le refaire, parce que déjà, il y a beaucoup de parties qui sont assez, ouais, monotones et que c'est pas les plus intéressantes. Mais je sais que si je le fais suffisamment de fois, je peux le battre. Enfin, je sais, je me sens capable de le battre. Après, oui, il faut que ça soit les étoiles soient alignées. Il faut pas qu'il y ait de gros problèmes mécaniques ou de perte de temps ou j'en sais rien ou même physique. Mais ça me semble faisable et du coup, ça m'intéresse pas forcément. Enfin, j'aime bien changer de défi et donc je pense pas que je le referais. J'essaierai pas de le rebattre. Voilà, maintenant j'ai établi ma trace et si d'autres filles veulent essayer de le battre, je serais super contente ou qu'elles le battent, bah tant mieux. Et non, moi j'ai plutôt mes yeux tournés vers autre chose maintenant.
Est-ce qu'il y a aussi une petite optimisation de ton matériel? Parce que de mémoire, je crois que tu n'avais pas de prolongateur. Tu avais également une grosse sacoche à l'avant. Donc quand on roule avec un gros vent de face, optimiser ta surface frontale, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Alors, j'avais des prolongateurs. J'en avais. Et après, ouais, j'avais une grosse sacoche à l'avant. Mais souvent, justement, je l'avais mise dans l'alignement des prolongateurs. Après, j'ai pas fait d'études d'aérodynamique pour voir. Mais à un moment, il fallait que je mette mes sacoches quelque part, donc et j'avais besoin, voilà, il y avait besoin d'avoir des affaires chaudes pour le nord. Mais ça peut être aussi quelque chose à réfléchir justement. Enfin, il y a le vent, mais il y a aussi toute cette partie, commencer par le nord, avoir tes vêtements chauds et pourquoi pas après les renvoyer par la poste, t'en débarrasser et du coup bah tu gagnes du poids, tu gagnes de la place. Ça peut être aussi une option. Voilà, moi j'avais plus réfléchi dans le sens où bah déjà c'était aussi un peu juste parce que j'avais jamais visité ces pays et donc pour moi c'était plus sympa de finir par là, d'avoir voilà d'arriver au Cap Nord et d'arriver dans un pays que je connaissais pas et de voir les rennes et toutes ces choses-là. Mais je m'étais dit aussi l'Espagne c'est un peu plus vallonné et donc commencer par de la montagne ça va être mieux quand t'es frais. Mais finalement, je me suis rendu compte que la fin de la Norvège, c'était quand même pas mal vallonné aussi à la fin. Et en plus, t'avais le vent de face et tout. Donc c'était pas forcément payant.
De toute façon, tu n'as pas l'intention de repartir, donc finalement, c'est plus une bonne expérience, un petit peu de visibilité gagnée, et puis voilà. Mais peut-être que tu y reviendras dans quelques années avec plus d'expérience, pourquoi pas?
C'est possible, je sais pas. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de faire d'autres choses. J'ai peut-être, bon là c'est pareil, ça demande des recherches pour savoir quand le faire et comment et ça va demander beaucoup plus de visa et tout. Mais là, moi, je voulais justement essayer plutôt quelque chose de plus grand, de plus inconnu et pourquoi pas essayer d'établir, enfin, ou battre le record féminin de la traversée d'Afrique. Je dis établir ou battre parce qu'il y a une fille là, Tegans Philippe, qui compte le faire l'année prochaine. Normalement, elle devait le faire en 2022, elle a eu un problème de santé, donc elle l'a pas terminé. Et elle compte le refaire l'année prochaine. Et bon, je vais la contacter pour savoir si ça la dérange pas que j'essaye la même année de le faire. Et pourquoi pas, ouais, soit du coup établir un record si elle l'a pas encore fait ou qu'elle a pas réussi à en établir un, ou alors essayer de battre le sien. Pourquoi pas. Voilà. Mais ça, c'est pareil, il faut déjà que je fasse mes recherches et peut-être que ça sera plus pour
Mais
2025.
tu vois que
C'est
je.
pas.
Oui, t'as vu que j'ai ouvert de grands yeux, hein, ça, tu l'as vu, ça.
Ouais.
Pourquoi tu demandes l'autorisation à quelqu'un d'autre de faire quelque chose? Tu peux m'expliquer ça? En quoi ça la concerne? Quel est le lien entre toutes les deux? En quoi ça la dérangerait? Alors peut-être que ça la dérangera, mais en tout cas, ça n'a pas à la déranger. Et pourquoi tu vas lui demander si ça la dérange, et donc en d'autres termes, pourquoi tu lui demandes l'autorisation?
Moi, je pense pas que ça la dérangerait, mais j'ai
C'est pas du
pas.
tout, c'est pas la Nathalie que je connais, ça. C'est pas la Nathalie que je connais, ça, hein.
Mais si, moi je suis une gentille, hein, en vrai. Non, bah après, je pense pas que ça la dérangerait, hein, mais voilà, elle fait quand même de la promo là-dessus depuis un moment. Je sais que ça lui tient à cœur et donc j'ai pas envie de venir. J'allais dire lui faire de l'ombre, mais peut-être pas. Hein. Ça se trouve, elle est bien meilleure que moi et elle a préparé son truc. Bah, je sais pas. Je trouve que c'est plus sympa. Enfin, et puis dans tous les cas, je pense que je peux aussi prendre de ses conseils. Hein, si elle a déjà, après peut-être qu'elle me les donnera pas, mais si elle a déjà fait ses recherches et tout, bah, ça peut être intéressant de savoir pourquoi, comment elle a prévu de le faire et pourquoi elle a choisi, je sais pas, cette trace-là, pourquoi dans ce sens-là, pourquoi à ce moment-là de l'année, voilà, si elle est d'accord pour me partager ses réponses, enfin ses recherches, mais bon après c'est aussi à moi de faire les miennes et puis ça sera plus intéressant de comment se battre entre guillemets, de faire chacun son expérience et puis de voir qui réussira le mieux.
Comment ça s'est passé la négociation pour finir ex aequo avec l'autre participante russe?
Elle était pas russe, elle était tchèque. Mais comment ça s'est passé? En fait, à la base, alors au début, c'est toujours un peu de. Non, ouais, on commençait déjà à se doubler dès le début. Alors souvent, quand elle était devant, c'est que j'avais pas vu parce que tu t'as pas trop de réseau en fait là-bas. Donc je pouvais pas trop voir et donc je crois que le deuxième jour, elle était devant moi et je savais pas. Donc après, une fois que j'ai su, j'ai tout fait pour la redoubler. Et donc en fait à chaque fois au checkpoint j'arrivais avant et c'est ce que je disais, j'ai pas encore j'ai pas encore trop géré les pauses sur du long comme ça et à chaque fois que je m'arrêtais de dormir je perdais trop de temps et à la fin quand on discutait j'avais l'impression qu'elle avait dormi beaucoup plus que moi mais qu'elle s'était arrêtée beaucoup moins quoi et donc à chaque fois elle me rattrapait quand je m'arrêtais de dormir au final le matin à chaque fois je la voyais quand j'étais en train de replier mes affaires et tout ça et donc ça a été toujours au début un petit peu une course et au début on se croisait juste on se disait juste salut une fois on s'est ravitaillé en même temps au même magasin donc là on a commencé à discuter un petit peu et après on se croisait quasiment tout le temps on était vraiment au même rythme et ouais on se croisait tout le temps. Donc on discutait un peu de plus en plus et puis elle m'a dit ah ça serait cool qu'on termine ensemble et tout ça. Et je lui ai dit ouais mais non parce que déjà si on termine ensemble ben, on est disqualifié. Parce que si tu commences en solo et que tu termines en duo, ben, comme ce qui s'est passé finalement, enfin ça s'est pas passé comme ça, mais je veux dire sur la La transcontinentale, il y a des personnes qui se sont fait disqualifier parce qu'elles ont trop roulé ensemble. Et donc, voilà, je voulais pas que ça arrive, surtout qu'on était toutes les deux, enfin, première et deuxième, alternativement. Et du coup, ça aurait été bête de se faire disqualifier. Et donc, je lui ai dit, bah, non, non, on peut pas rouler ensemble. Je lui ai dit, à la limite, si à la fin, on est au même niveau, bah, on finit ensemble. Mais non, j'ai pas envie de rouler ensemble parce que je veux pas me faire disqualifier, je veux quand même être classée, voilà. Et puis pour moi c'était marrant aussi de faire la course finalement avec une femme parce que ouais je pense que je me donne peut-être pas à fond quand y a, tu vois là en plus il y avait un énorme niveau chez les hommes et j'ai peut-être pas encore assez confiance en me disant je me dis ouais mais c'est les meilleurs mondiaux donc forcément je vais être derrière enfin j'essaye peut-être même pas de les battre en fait parce que voilà je fais ma course comme ça mais je me dis bah je suis forcément derrière enfin en plus c'est des hommes et voilà on a beau être féministe ou quoi voilà il y a des capacités quand même physiques ben qui sont avantagées chez les hommes donc t'as toujours ces excuses là et là d'avoir une femme qui est à mon niveau bah pour moi c'était hyper boostant parce que là j'ai plus d'excuses si elle est devant moi ben je peux être devant enfin ouais je peux être devant aussi en fait et donc non pour moi c'était fun aussi de faire la course et donc en gros je lui ai dit non. J'ai dit bah à la limite si voilà si on arrive plus ou moins en même temps bah pourquoi pas on s'attend on fait ensemble on termine ensemble mais bon moi j'avais pas envie de gagner ma enfin ouais de pas mériter ma victoire non plus quoi donc non pour moi c'était plutôt on continue de faire la course et donc on a continué de faire la course et bah du coup c'est ce que j'avais dit 70 km avant la fin j'étais devant mais elle était quand même pas loin derrière ce qui était marrant c'est que on s'est toutes les deux arrêtées. Enfin, à un moment, on s'est toutes les deux croisées sur la fin. Ça, il devait rester, ouais, il devait rester moins de 2 jours de course. Et du coup, on était ensemble. Moi, je me suis arrêtée dormir. J'avais mis un réveil au bout d'une heure en me disant, voilà, je dors une heure, c'est le dernier jour. Enfin, il reste une journée en gros. Je dors une heure et puis ensuite, j'y vais quoi. Et finalement j'ai eu du mal à me lever enfin j'ai snoozé puis après la deuxième fois j'ai dû oublier de snoozer et du coup j'ai dormi 4 heures en tout et je repars et je me dis là à ce moment-là j'avais pas de réseau donc je voyais pas où j'étais je voyais pas où était l'autre fille enfin je savais où j'étais mais je voyais pas où était l'autre fille par rapport à moi et donc je me dis ah merde bah c'est foutu là elle a dû partir elle doit avoir plein pas mal d'avance surtout qu'elle elle s'était pas arrêtée elle s'était arrêtée après moi enfin je savais pas à ce moment-là si elle s'était arrêtée ou pas mais elle avait continué. Et du coup, je descends et je me dis bon bah c'est foutu, elle doit être loin. Et après je dis bon allez c'est de l'ultra, il peut encore se passer plein de choses. Enfin c'est pas parce que c'est le dernier jour et que j'ai perdu 3 heures que je peux pas encore gagner. Il faut pas voilà, il faut pas baisser les bras. Donc j'avance, je me booste un peu. Et quand j'ai du réseau, je regarde et je me dis mais merde elle est derrière moi en fait. Et je vois qu'elle commence à bouger et en fait elle c'est pareil, elle a dû dormir. Elle avait prévu de dormir 1 heure. Plus tard, voilà, on a discuté. Et elle avait aussi prévu de dormir 1 heure. Et pareil, elle a dormi 4 heures. Pareil que moi, elle a loupé son réveil. Et du coup, on se retrouve quasiment pareil à repartir en même temps. Alors, elle un peu derrière. Et je la voyais qui me pourchassait. Je commençais à avoir des problèmes justement avec mon derrière. J'étais obligée de m'arrêter tous les 10 km pour remettre le galet. Donc, c'était hyper chiant parce que j'étais en stress. Vous voyez qu'elle commençait à. Qu'elle était pas loin du tout. Et puis, elle gagnait un peu de terrain. Et puis il restait voilà à la fin il restait une montée et là ben j'ai voulu voilà j'avais encore mon galet qui était parti sur le côté j'ai voulu forcer un peu et puis j'ai complètement pété mon derrière et sur ce coup-là elle arrive et elle me demande ce qui se passe et tout parce qu'elle me voit arrêter et je lui dis bah j'ai cassé mon derrière donc bah vas-y hein, la victoire elle est pour toi et puis elle me dit non non j'ai quand même envie qu'on termine ensemble voilà ça peut enfin ça serait cool et tout ça et du coup bon bah je lui dis enfin je lui dis mais là c'est vas-y hein, enfin comme tu veux mais et elle insiste quand même pour qu'on termine ensemble il y a des Kirghizes qui s'arrêtent en camion qui ont des outils donc avec leur aide on remet mon dérailleur droit ils nous filent même un petit ils avaient de la viande enfin ils avaient fait un barbecue ils avaient de la viande ils nous ont filé de la viande du coca et tout donc vraiment cool très sympa. Très sympa les Kirghiz. Et bref, et du coup, j'arrive à utiliser 2-3 vitesses avec le dérailleur remis à peu près droit. Sauf que ça commence, enfin, la dernière montée est assez raide et puis finalement, c'est quasiment que du portage. Donc on porte jusqu'en haut. Et tu vois, je me dis qu'on a bien fait, enfin j'ai bien fait finalement de pas accepter tout de suite qu'on termine ensemble, parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on perd du temps, parce qu'on se dit toutes les deux, il n'y a plus la compétition, et donc on a plus cette motivation, enfin ce boost, cette envie d'être devant et enfin de gagner, et du coup c'est presque, moi j'ai ressenti d'un coup la fatigue un peu, parce que j'avais plus besoin d'être alerte, de me dire vas-y, faut que je donne tout. Tu te dis ben tu te relâches un peu en fait, et donc je pense que, et elle c'est pas, enfin j'ai l'impression que c'était pareil, j'ai eu une combattante et tout qui était prête à tout pour me rattraper, et là j'avais l'impression qu'elle traînait un peu et j'attendais et tout dans la montée, elle avançait pas, elle s'arrêtait beaucoup, alors que juste avant j'étais tout le temps dans le stress en train de regarder où elle était, à me dire ouais elle lâche rien quoi. Et puis, donc voilà, et puis finalement ben on fait cette montée ensemble, et puis enfin plus ou moins, parce que pareil on montait un peu à chacun notre rythme, parce qu'on n'a pas le droit de, enfin on voulait pas voilà se faire éliminer sur la fin, mais c'était acté qu'on allait s'attendre en tout cas à l'arrivée et terminer ensemble, et voilà, et donc c'était vraiment sur les derniers jours, sur les la dernière montée qu'on s'est, enfin avant la dernière montée qu'on s'est dit ben on termine ensemble. Mais ce qui est assez marrant aussi, et tu vois, dont on parle pas trop, c'est qu'en fait, il y avait aussi ce côté, enfin c'était assez drôle, enfin assez drôle, ce côté un peu, elle avait peur, tu vois, elle me disait, elle avait peur enfin, finalement d'être un peu toute seule en montagne et qu'il lui arrive quelque chose et qu'il n'y ait personne, ce qui est bon, un peu le principe de la sucrode au final. Mais c'était, enfin j'avais l'impression que finalement c'était pas complètement, enfin c'est pas aussi ouais aussi beau qu'on veut le raconter, mais elle avait aussi un peu cette inquiétude, parce qu'elle était, on avait toutes les deux été un peu malades, et on avait du mal à respirer, et je pense qu'elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose et que personne n'arrive à temps, et donc il y avait aussi ce côté, tu vois, d'avoir quelqu'un, de savoir qu'il y avait quelqu'un en soutien avec elle, alors qu'au final elle faisait traverser 1 800 km toute seule et de faire des trucs de dingue, mais malgré tout il y avait aussi ce côté où elle se sentait plus rassurée d'avoir quelqu'un pas loin quoi.
Tu as été malade un petit peu?
Comment?
Tu as subi les tu as bien suivi les conseils tu as bien suivi les conseils de Sofiane, ou est-ce que tu as été un petit peu malade et subi les affres de la nourriture kirghize?
Alors non, moi c'était pas, j'ai bien fait attention au niveau de la nourriture, c'était pas le seul problème. C'est que j'ai dormi souvent en altitude, en bivouac, à des endroits où il faisait froid, et du coup j'avais le nez complètement bouché, et donc j'ai pas eu du tout de problème gastrique, mais par contre pendant plusieurs jours ouais, j'avais vraiment le nez, je respirais par la bouche, et en fait on se rend pas compte, mais ce qui est embêtant avec ça, c'est que quand tu essayes de manger en même temps que tu fais du vélo et que tu dois respirer par la bouche, bah tu t'étouffes en fait. Donc c'était dur de manger, de boire, et ouais, je sais pas, pendant plusieurs jours comme ça j'arrivais pas à me déboucher le nez, et justement sur cette dernière montée j'ai réussi, je sais pas si c'est parce que j'ai pris le temps d'un peu plus de m'arrêter, d'attendre du coup Peggy et tout, mais j'ai vraiment j'ai soufflé autant que j'ai pu, et j'ai sorti des monstres de mon nez, et après ça allait bien, après j'ai plus de problème. Mais avant ça ouais, pendant je sais pas, bah quasiment, je crois que c'était même dès le deuxième jour que je tombais malade, après ça a empiré, au début ça allait encore, mais petit à petit ouais j'arrivais de moins en moins à respirer par le nez en tout cas, donc ouais ça c'était assez embêtant, et je crois qu'elle a eu quelque chose d'assez similaire.
Donc tu as sorti des atrocités de tes narines. C'est classe, ça, c'est bien.
Ah bah c'est l'ultra hein, c'est pas je sais pas si t'as vu des photos ou
Ouais.
la photo que Komoot a postée là sur Instagram, ça m'a fait rire, on dirait que je suis noire avec des lèvres toutes blanches là, enfin, parce qu'après du coup, ah oui, alors ça c'était le pire, c'était je me suis pris un coup de soleil sur les lèvres. Et du coup, ça avait tout brûlé et tout. Bah après, quand on voit sur la photo où j'ai les lèvres toutes blanches, ça c'est parce qu'après j'ai mis de la crème. Mais à la base, ça avait fait des grosses cloques et tout. Et pendant, j'ai eu mal pendant toute la course. Ça a mis, même après la course, encore quelques jours, C'était vraiment, ça avait été brûlé bien, quoi. Et ça, c'était, je crois que c'était le pire.
Tu as mis combien de temps à récupérer physiquement et moralement, physiquement à soigner toutes ces petites blessures, à retrouver tes fesses, à retrouver tes lèvres, à retrouver peut-être un peu de sensibilité dans les extrémités et à retrouver l'envie de simplement de mettre tes habits de vélo, rien que ça, sans que ça t'écœure. Il
Bah,
t'a fallu combien de temps?
ouais, je dirais une semaine. J'ai fait une semaine de coupure complète où j'ai pas du tout touché au vélo. Et après, alors, il y a eu une surprise aussi quand, donc le lendemain, après être arrivée, mes parents m'appellent. Oui, c'est bizarre quand même. Enfin, j'avais quand même, ouais, je venais de terminer la course et tout, mais en général, ils m'envoient un message pour me féliciter. Ils m'appellent pas, surtout si je suis à l'étranger, quoi. Et ils me disent, ouais, t'avais garé où ta voiture et tout. Je dis, ben, à JR. Ils disent, ah ouais. Enfin, je sais plus trop ce qu'ils me disent. Et en gros, ils me disent, ouais, là, il y a la gendarmerie. Ta voiture a été incendiée. Ok, génial. Donc, il nous faut les papiers, les machins, je sais pas quoi. Donc, au début, j'avais prévu de rester un peu plus longtemps au Kirghizistan. Et puis, j'ai fait, bon, ben, je vais rentrer pour m'occuper de ça. Et du coup, ben, j'ai plus de voiture. Donc après, mais dans tous les cas, même sans ça, je fais quasiment tous mes déplacements du quotidien à vélo. Donc après, mais là, j'avais vraiment plus le choix. Donc j'ai quand même repris le vélo quand je suis rentrée en France pour le déplacement en transport. J'ai fait voilà, deuxième semaine. Du coup, c'était juste déplacement transport. Et puis donc ça m'a fait en tout ouais 2 semaines de pause. Et puis ensuite, là, j'ai repris après ça, j'ai repris le vélo, mais là j'ai pris plutôt gravel, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, vu que cette année c'était beaucoup bah, c'était des objectifs route et VTT, donc ça me manquait un peu, donc je suis retournée, j'ai fait beaucoup de sorties gravel et beaucoup de sorties avec du monde, parce que là ouais j'étais moins motivée à faire des entraînements seule ou à même du long, j'avais pas envie de faire forcément du long, à moins d'être avec des gens et normalement ça me dérange pas de m'entraîner seule, de faire même des grosses sorties seule, et là l'envie c'était plutôt ouais de faire soit découvrir des nouveaux ou faire des choses un peu plus nouvelles comme des parcours gravel ou sortir avec du monde. Donc là, j'ai fait beaucoup de sorties avec tous mes potes qui m'ont pas vu beaucoup du coup cet été avec mon gros planning.
Donc ta voiture a cramé.
Ah ouais. J'ai même pas pu lui dire au revoir, je l'ai pas revue. Ils l'ont
Et
déjà ramassée.
c'est pas de chance ou
Près de Grenoble, je dirais que c'est criminel,
c'est pas de
mais
chance ou c'est uniquement parce que elle était ouais, c'est la mafia grenobloise, la bonne ambiance à Grenoble.
c'est ça. Bah après là où je suis, je pensais que, enfin, je suis pas vraiment à JR, mais en fait je prenais le train du coup de là-bas. Il y a une gare qui est proche de chez moi et je pensais pas que ça craignait dans ce coin-là. Donc j'avais laissé ma voiture effectivement 3 semaines, ouais 2 semaines, 2 semaines là-bas en pensant que ça irait. Enfin je l'avais déjà laissé plusieurs fois là près de là-bas et j'avais jamais eu de problème. Et voilà, je pense il y a des petits cons qui ont dû voir qu'elle n'avait pas bougé depuis 2 semaines et que, en plus, j'ai une plaque, enfin, je l'ai immatriculée en Vendée. Ils ont dû se dire, ben, voilà, on va s'amuser. Et puis voilà, hein, c'est. Ouais, c'est pas de chance.
Ah ouais, non mais l'humour grenoblois quand on n'est pas habitué c'est quelque chose hein. C'est vrai que c'est drôle.
C'est ça.
Une voiture est là depuis longtemps, on va la cramer. En plus c'est un Vendéen donc voilà c'est un étranger en quelque
Voilà.
sorte. Eh ben voilà suce aux étrangers. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi à Grenoble vraiment. Tout de même, tout de même. De quoi va être faite ton année?
Cette
Mis
année.
à part que on va se croiser avec grand plaisir au stage annuel de Stéphane Brognard que nous allons co-animer.
En 2024?
Bah oui, parce que pour 2023, je crois que
C'est plus ou moins
tu vas y aller
terminé.
tranquille maintenant.
Ouais. Ben, pour l'instant, je suis en train d'y réfléchir. Il y a plusieurs projets. Donc, comme je disais, peut-être la traversée d'Afrique, soit l'année prochaine, soit 2025. Il y a quelques courses qui m'intéressent. Peut-être l'Atlas Mountain Race, justement. Mais bon, comme on l'a vu, il y a eu les tremblements de terre dernièrement. Donc, à voir si elle a lieu. Ouais. Je l'avais mise dans mon calendrier et puis bon, on verra. Après, j'ai vu des courses un peu avec des concepts originaux. Il y en a une qui s'appelle The Loop en Autriche où l'idée c'est pas forcément les meilleurs qui gagnent parce que tu peux gagner des points, enfin des kilomètres en gros. Par exemple, en mangeant de la glace, t'as des défis. Celui qui mange le plus de glace, il gagne des kilomètres. Celui qui, voilà, par rapport au dénivelé que tu fais, si tu traverses des rivières sans pont, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, je me dis, ça peut être un concept marrant. Pourquoi pas ça? Enfin voilà, il y a plusieurs courses qui m'intéressent. Comme je disais, je voudrais
Oui,
faire
ça
aussi un peu
c'est
des.
très très drôle ça.
Ouais. Bah, tu regarderas, mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Là, ils l'ont fait début septembre. Et ouais, après il y a plusieurs courses qui m'intéressent, mais comme je disais, je veux aussi essayer de faire un peu plus de défis perso. Une idée, ça serait un voyage un peu pareil. Ça, j'ai de la recherche à faire et puis aussi de l'investissement en matériel, mais j'aimerais bien essayer le bike rafting, par exemple. Voilà, faut quand même que j'achète un bateau, bateau gonflable et tout ça, mais pourquoi pas partir sur de l'aventure un peu comme ça. Avoir le temps aussi de faire un peu plus de voyages. Je pense que ce que j'ai regretté un peu là, c'est ouais, j'ai voyagé beaucoup, mais à chaque fois je partais à un endroit et je faisais une course et je partais à un autre, je faisais une course et j'ai pas pris le temps comme les autres années de justement faire une course et revenir à vélo ou explorer un peu plus parce que là à chaque fois ça s'enchaînait très vite. Et donc là j'aimerais déjà ouais faire mon calendrier un peu plus intelligemment. Et parce que enfin cette année c'était un peu j'avais mes deux gros objectifs et puis ensuite j'ai dit oui un peu à tous les trucs qui m'intéressaient et ça a fait que j'ai eu un calendrier très très dense à un moment qui m'a un peu fatigué, enfin beaucoup fatigué. Et donc là ouais c'est pas dire oui à toutes les courses mais en prendre quelques-unes qui m'intéressent, les faire un peu plus intelligemment et ensuite voilà voyager un peu plus du coup dans les régions où je vais.
Là, cette année, finalement, tu as rempli largement tes deux objectifs, donc la traversée de l'Europe et la Silk Road. Qu'est-ce que ça a changé pour le moment en termes de visibilité, de sponsors, de revenus? Est-ce que ça a changé ta vie? Ou est-ce que tu vis dans un palace? Est-ce que tu t'es acheté une Tesla? Ou est-ce que au contraire, tu montes toujours tes pneus, tu blesses toi-même? Ou est-ce que tu as trois larbins à signer pour les monter toi-même?
Non, ça n'a pas changé grand-chose. Alors oui, j'ai
Ou est-ce
gagné.
que c'est un peu entre les deux?
Bah, j'ai. Ouais, j'ai. Si, j'ai un peu gagné en visibilité. J'ai quelques marques qui m'ont contacté. Mais non, non, c'est pas. Ça a pas. J'ai pas eu d'un coup des demandes de tout le monde. J'ai gagné pas mal en visibilité finalement sur la traversée d'Europe où j'ai eu l'équipe média qui m'a fait un réel quasiment tous les jours et ça a bien marché, ça a beaucoup plu aux gens, j'ai l'impression. Donc ça m'a fait de la visibilité. Après, il y a aussi beaucoup de journaux qui en avaient parlé. Voilà, on avait eu aussi une petite interview sur Télé Grenoble, enfin en local. Ouais, ça m'a apporté de la visibilité, mais ça m'a pas, il n'y a pas eu 50 sponsors qui m'ont contacté et tout, ils m'ont pas proposé de Tesla. Enfin après, voilà, je suis en négociation déjà pour l'année prochaine, justement, je vais monter un peu un dossier et puis essayer de trouver des sponsors pour faire quelque chose d'un peu plus viable. Ça serait l'idée après la Silk Road finalement, là j'ai été surprise, ça m'a donné moins de visibilité que ce que je pensais, peut-être justement parce qu'il y a eu il y avait beaucoup beaucoup de grands noms et du coup on se retrouve avec l'autre fille à la 14e place, sachant que les autres années on aurait fait top 3 ou 4e avec le même résultat, enfin le temps qu'on a mis. Alors évidemment c'est pas tous les ans le même parcours, c'est pas forcément comparable selon la météo etc. Mais ça n'empêche que là où par exemple une Jenny Teuf qui a eu énormément de visibilité sur quelque chose comme ça parce qu'elle était ouais je sais pas elle était peut-être 12e, c'était une des rares femmes à l'avoir terminée, une des premières. Et ben finalement Elle a mis, je crois qu'elle avait mis 12 jours. Donc moi, je m'attendais à faire quelque chose comme ça. Je me dis, ben, tout le monde dit tellement qu'elle est forte et tout. J'avais visé dans les 12 jours aussi, voire même plus. Et finalement, on l'a fait en 8 jours, 8 jours et quelques heures. Donc, ouais, sachant qu'en plus, nous, on n'avait pas forcément l'expérience et etc. Ouais, plutôt contente de ma course, mais non, niveau visibilité, ça n'a pas donné beaucoup beaucoup de visibilité sur ce point-là. Après, je sais pas forcément ce que je recherche le plus. Alors c'est sûr que c'est toujours bien pour les sponsors et pour développer mon activité, mais moi je fais surtout les choses parce que c'est ce qui me plaît, parce que je suis passionnée, parce que voilà, sinon je ferais une transcontinentale, j'essaierais d'être dans le top, je sais pas, top 5 ou top 10. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu fais pas être transcontinental. Ben parce que ça m'intéresse pas, en fait c'est pas une course qui me fait vibrer. Et oui, ça m'apporterait sûrement de la visibilité, mais c'est pas ma première préoccupation, on va dire. C'est toujours bon à prendre, mais c'est pas ça qui va me faire faire une course, quoi.
Est-ce que, tu l'as dit à l'instant, Jenitov passe pour être super balèze, ce qui est à relativiser, ouais, justement, parce que je pense que tu l'es largement plus, et qu'elle a justement la force des réseaux sociaux qui relaient ses trucs avec beaucoup plus de vigueur, et d'avoir des sponsors qui relaient ses trucs avec plus d'intensité, alors que toi, tu es peut-être un petit poil plus esseulé. Est-ce que justement ce genre de performance ne tend pas à être un petit peu banalisé et que bah, finalement Nathalie Bayon a fait un top 15 à la Silk Road, bah, c'est finalement que ce qu'on attend de toi parce qu'on n'est pas étonné. Enfin, je veux dire, moi, là, ce qui m'a fait plaisir, c'est pas de te voir batailler avec les meilleurs hommes, c'est de te voir enfin batailler avec une fille de ton niveau.
Ouais.
Parce que tu sois capable de rivaliser avec les meilleurs hommes et de faire un top 15, c'est pas un problème, mais de voir enfin une fille qui peut tenir physiquement la dragée haute, mais qui finalement à la fin se comporte comme une petite fille parce qu'elle veut pas finir toute seule dans la montagne, ben j'avoue que ça m'a fait plaisir.
Non, elle s'est pas comportée comme une petite fille parce que après, si j'avais pas été là, elle aurait fini quand même toute seule, hein. Elle a quand même une force de caractère. Et non, elle a un très bon niveau. Enfin, c'est assez marrant aussi parce qu'elle raconte une histoire. Moi, j'avais regardé un petit peu. Et cette année, il y a eu aussi énormément de femmes par rapport aux autres années. Et donc, j'avais fait un peu mes recherches pour voir ce qu'il y en a. Donc, j'avais vu qu'il y avait Jenny Tuff, où je m'étais dit, ah, ça va être sûrement la rivale à essayer de battre. Et ensuite, les autres filles, je connaissais pas leur nom. Donc j'ai quand même regardé un petit peu, voilà, vite fait taper le nom dans Google, voir s'il y avait quelque chose qui ressortait. Et puis j'ai vu que cette fille-là, elle avait quand même fait quatrième à la Transbalkan au général et première femme. Et je me suis dit, ah oui, elle a quand même, elle finalement, ça va sûrement aussi être un bon niveau. Et après, bah tu peux toujours avoir des surprises, hein, même s'il y en a certaines où tu trouves rien, ou comme moi, hein, quand j'ai fait mes premières courses, personne s'attendait à. On m'avait même dit, non mais toi tu penses arriver au CP1 le premier jour avant le couvre-feu sur la Bikingman Corsica. Non non mais il y a que les meilleurs qui peuvent quoi. Et puis finalement bah, j'ai surpris tout le monde. Et là, bah, comme cette fille Peggy, elle avait pas forcément non plus beaucoup de visibilité. Il y en a qui lui ont sorti un peu la même chose quand elle m'a raconté qu'avant la course elle était au restaurant avec des gars. Et ils lui ont demandé quel était son objectif. Elle a dit ben gagner chez les femmes et ou faire du mieux, enfin même faire un bon résultat chez les hommes, mais voilà gagner chez les femmes au moins. Et ils lui ont dit non mais tu sais pas qui y a Nathalie Bayon. Et ben, finalement tu vois elle a réussi à me tenir, m'a donné, alors elle a même pu gagner. Enfin voilà c'est non non là il a quand même été le fair play de me proposer de finir avec elle. Voilà je peux pas du tout dire qu'elle a fait sa petite fille. Hein. Elle est très très forte. Et pareil, hein, Jenny Teuf, je suis sûre qu'elle est très forte, mais peut-être pas aussi forte que.
Je t'ai pas dit qu'elle était, je t'ai pas dit qu'elle était pas forte.
Voilà, non,
Je
non,
t'ai pas dit qu'elle était pas
je veux pas qu'on
forte.
pense
Je
que.
trouve
Mais
juste dommage qu'elle ait.
après, ben, il y a
Ah non
plusieurs
non, elle est
choses. Il y a
forte.
plusieurs
Et
choses,
pour faire ça, il y a aucune question. Évidemment qu'elle est forte.
mais il y a le fait que oui, maintenant c'est un peu banalisé. Enfin, banalisé ou ben, disons qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des choses incroyables comme ça et le niveau augmente. Et donc oui, les premières sont avantagées parce qu'elles ont eu la visibilité avant, elles ont eu, disons, un peu plus de chance de ce côté-là. Enfin, ça reste des femmes fortes. Enfin, je pense à Lyle Wilcox, c'est une des premières qui a fait ces choses-là. Et donc, elle a une énorme visibilité parce qu'avant, c'était la seule femme à faire des choses comme ça. Donc forcément, ça lui a fait une énorme visibilité. Et ensuite, ben, plus t'as de visibilité, plus c'est facile en fait d'en avoir encore plus. Et donc je pense Jenny Tuff, c'était un peu pareil, hein. C'était un peu la première à faire, une des premières à faire la Silk Road, à faire des choses comme ça. Et après, elle est aussi très très forte en storytelling. Et donc ça aide aussi. Après, ben, c'est sûr, plus t'as de contacts et une communauté grande, ben plus t'as de visibilité aussi. Enfin, c'est un peu un cercle. Et maintenant qu'il y a énormément de femmes qui font, ce qui est très bien, hein, tant mieux, c'est aussi notre but, hein, d'avoir de plus en plus de femmes qui font ça, etc. Mais du coup, bah, c'est aussi plus dur de se démarquer, d'avoir, disons, une visibilité individuelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui, voilà, qui rêvent de faire la même chose, il y en a beaucoup maintenant qui performent, et donc forcément, ça se dilue un peu plus. Et donc, c'est plus dur, ou même, enfin voilà, on le voit, par exemple, moi je suis beaucoup présente sur Instagram, ben. C'est pas aussi facile d'être visible sur Instagram qu'avant, parce qu'avant, pareil, c'était un réseau social où il y avait moins de monde, où il y avait quelques influenceurs ou athlètes, et donc tout le monde suivait les mêmes personnes. Et donc maintenant, elles ont un très gros réseau, alors qu'aujourd'hui, pour avoir un aussi gros réseau, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus de travail. Alors qu'avant, bah, tu utilisais quelques hashtags et tu étais visible. Maintenant, voilà, ça a changé. Enfin, d'ailleurs, beaucoup de monde dit que voilà, le réseau est un peu en perte de vitesse et que c'est beaucoup plus dur d'être visible. Parce que maintenant, ils veulent que tu payes les pubs, etc. Donc oui, il y a ça qui joue. Mais après, voilà, c'est. Après, il faut aussi se démarquer. Enfin, ouais, moi, je suis dans le top féminin français, je pense. Et il n'y en a pas énormément. Donc il y a aussi cette carte-là à jouer. Même si, pareil, hein, je pense que ça va se développer et ça va. Mais après, Jenny Tuff, elle est très très bonne en storytelling. Enfin, il y en a qui sont très bons en vidéo. Chacun fait ce qu'il peut. Chacun utilise ses forces aussi.
Alors toi, tu es très forte en quoi?
Très forte.
C'est quoi ta force à toi?
Très forte en vélo. Ouais, non, ben moi, je pense que je suis un peu touche à tout, et puis j'aime bien partager, et du coup, je pense c'est un peu comme Stéphane Brognard, peut-être, enfin moi je suis peut-être différent parce que lui il est vraiment, il aime bien créer un peu la surprise en changeant vraiment de sport. Alors que moi je reste toujours dans le même sport, mais je me spécialise pas forcément quelque part. Enfin, j'ai eu des bons résultats à l'étape du Tour, j'ai bons résultats sur du long, j'ai fait, voilà, je fais du VTT, du gravel, du route. J'aime bien changer, comme je disais, l'année prochaine, j'aimerais bien essayer, ou dans 2 ans, je sais pas, le bike rafting. Donc j'aime bien un peu innover, essayer d'autres choses. Et je pense que c'est aussi ce qui intéresse les gens, que tout le temps faire la même chose, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aime bien, voilà, découvrir des pays et puis ou des endroits et puis les partager avec ma communauté. Donc voilà, moi c'est beaucoup le partage. Voilà, je suis assez proche de ma communauté. Et je pense que c'est un peu mon point fort. Enfin, je réponds à tout le monde quand on m'envoie un message. Alors, si maintenant il y a beaucoup de messages, donc c'est possible qu'il y en ait qui partent un peu à la trappe que je vois pas. Mais non, j'essaye d'être proche des gens.
Alors justement, l'année prochaine, est-ce que cette volonté, ou en tout cas cette obligation de se démarquer, ne dirige pas un petit peu tes projets de l'année prochaine, où tu vas te détourner un petit peu des courses, visiblement, et partir un petit peu plus à l'aventure ou sur du voyage? Est-ce que c'est pas aussi une manière de se démarquer de cette course à la compétition, tu vois, à Badlands? J'ai croisé Cynthia Frazier qui fait top 10. Bah oui, c'est sûr qu'elle va très très vite. Elle est très très forte. Mais est-ce qu'il faut vraiment aller dans cette voie? Est-ce que toi justement tu ne choisis pas cette voie du voyage pour te différencier et faire quelque chose qui te correspond davantage?
C'est pas pour me différencier, mais effectivement c'est pour faire quelque chose qui me correspond davantage. Comme je disais, moi la course, en fait je suis un peu tombée dedans par hasard. Enfin, j'aime bien, hein, mais J'ai eu des bons résultats dès le début et du coup après j'étais un peu cataloguée enfin et puis je me dis bah ça marche bien je continue. Donc j'ai continué la course mais et le problème c'est que voilà, j'ai été invitée par-ci par-là, je me dis ah, ça a l'air cool et du coup eu envie de tout faire. Mais justement cette année, je me suis dit j'ai fait trop de courses et ça et le voyage me manque et c'est plus pour ça que je me suis dit que j'avais envie de partir là-dessus sur du défi personnel parce que oui, finalement quand j'ai commencé, ce qui me faisait rêver, c'était un peu ouais, ce que font ben, quelque chose comme Jonas Deichmann qui fait ses propres projets. Lui, je crois qu'il fait aucune course. Enfin, alors moi j'aime bien quand même, je vais continuer à faire des courses, mais lui, il a à chaque fois des projets de dingue et il s'en fout des courses. Enfin, et il vit sa vie et voilà. Et c'est plus vers un modèle comme ça que j'ai envie de partir. Ouais. Mais c'est pas forcément dans le but. Enfin non, c'est pas du tout. Même dans le but de me démarquer, c'est plus parce que c'est ce qui me fait envie à ce moment-là. Après, par exemple, j'ai discuté avec un ancien cycliste pro qui maintenant a une boîte et qui du coup est quand même en contact encore avec ce milieu-là et qui m'a dit t'as le niveau pour être cycliste pro, est-ce que tu voudrais pas intégrer une équipe et tout ça l'année prochaine? Et j'ai dit ben c'est sûr je veux pas en faire une carrière parce que c'est pas le cycliste que moi je voilà j'aime le cycliste quand même aventure. Mais pourquoi pas essayer une saison, tu vois, découvrir ce que c'est d'être dans une équipe pro. Et alors, c'est sûr que je serai pas leader et tout, hein, mais enfin, quoi que là, chez les femmes, j'avais discuté avec des femmes, c'est, je crois que ça dépend des courses et tout, mais bref. Oups. J'ai perdu. Et je me dis, mais pourquoi pas essayer, enfin. Voilà, parce que j'aime bien découvrir des nouvelles expériences et tout. C'est pas vraiment le but de me démarquer, c'est le but d'essayer autre chose, voilà. Comme je disais, j'aurais pu rester à me spécialiser dans les courses d'ultra de 1000 km en route parce que c'est là où je performe le mieux, je pense. J'aurais pu rester là-dedans et juste gagner et voilà, essayer d'être la meilleure. Moi, c'est pas ce qui me motive le plus de m'entraîner pour être le plus performant le jour J. Moi, ce qui me motive, c'est la découverte, c'est l'inconnu, c'est essayer de surmonter des objectifs, des challenges qui me semblent quasi impossibles. Enfin, moi, justement, le Silk Road, j'ai presque trouvé facile entre guillemets parce que je me faisais une telle montagne de cette course, je pensais qu'elle était. Enfin, toi, c'est peut-être un peu la promotion que l'image qu'on donne de la course. Ah, c'est la course la plus dure du monde au VTT, machin. Oui ou non, j'en sais rien, mais. Mais du coup, j'imaginais que j'étais pas prête encore pour cette course et tout ça. Et donc, je pensais que ça allait être hyper dur. Et finalement, ben, j'avais eu tellement d'attentes que j'ai pas trouvé ça si difficile. Alors évidemment, c'est dur, mais si t'es préparé, tu peux la faire, quoi. Je sais plus pourquoi j'ai parlé de tout ça.